shout out with the lighter.
Avoir 20 ans, avoir 20 ans et ses problèmes, avoir du change. Une main pour la chance et l'autre enchaîne, avoir du chien.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Larzac pour une émission spéciale parce que nous sommes en direct aujourd'hui et hors les murs. En ce samedi 2 décembre, c'est Nico qui a la technique. Salut Nico.
Salut.
Et puis il y a Alex aussi.
Bonjour.
Et notre invité c'est Simon. Salut Simon.
Salut.
Alors, on est à la maison de Marie-Jean de Millau, où est installée depuis hier une exposition consacrée aux 20 ans d'une certaine radio associative locale. Pas vrai, Alex?
Oui, alors comment elle s'appelle cette radio?
Eh bien, vous vous en doutez, c'est Radio Larzac. On a déjà fêté nos 20 ans plusieurs fois déjà sur le Larzac cet été. On va en parler tout à l'heure. Puis le 4 novembre au Créa pour une belle journée festive. Et puis avec cette exposition, c'est aussi une autre manière de fêter nos 20 ans. Donc c'est une expo qui est ouverte jusqu'au 21 décembre. L'entrée est gratuite. Merci beaucoup d'ailleurs à la Maison de Marie-Jean pour l'accueil. Donc maintenant, on va parler de son et de radio. Pour rester dans le thème, et juste après cette émission, il y aura un peu d'ouverture vers 18h, ici même à la Maison de Marie-Jean. Donc si vous nous écoutez en ce moment et que ça vous donne envie, n'hésitez pas à nous rejoindre. À cette occasion, on a décidé, comme je disais, de parler de son et de radio, parce que c'est quelque chose qu'on côtoie tous les jours, mais qu'on ne prend pas forcément le temps d'explorer. Et c'est pour ça qu'on a invité Simon. Donc, tu es ingénieur du son pour la société EPSI à l'UNAS.
C'est ça.
Alors, pour commencer, donc, ingénieur du son, en quoi consiste ce métier?
La bonne question. C'est harmoniser le son. En gros, c'est pour que ça devienne audible au plus grand nombre de personnes, parce que chaque oreille est différente. Et chaque personne a une audition différente. Donc le but, c'est vraiment d'harmoniser au maximum les choses. Voilà, c'est principalement en résumé ce que c'est un ingé son.
D'accord. Et toi, pourquoi tu as eu envie de faire ce métier? Qu'est-ce qui t'a attiré vers le son, vers la radio? Parce que tu travailles aussi avec des radios.
Ouais, alors à la base, je suis électrotechnicien. C'est-à-dire qu'à la base, je concevais les cartes mères qui servaient à produire ces sons. Et en fait, moi j'en suis arrivé tout simplement, j'étais batteur dans un groupe de musique et puis de fil en aiguille, on s'intéresse un peu à ce qu'il y a dans l'électronique et puis j'ai atterri là-dedans tout simplement.
Donc ingénieur du son, c'est sur la sonorisation d'événements comme des concerts?
Ça peut être les sonorisations d'événements, ça peut être de la diffusion radio, ça peut être des groupes de musique, ça peut être la production audiovisuelle pour des films, c'est assez large. Après les ingé sons, chacun a sa spécialité en général, il y a quelqu'un qui va plus être orienté sur certaines choses.
Mmh. Donc, justement, pour partir vraiment du début, le son, on sait que c'est un phénomène physique qui est provoqué par des vibrations qui se propagent soit dans l'air, soit dans l'eau. Les vibrations donc sont captées par nos oreilles et sont transmises au cerveau qui les décode. Donc, ces vibrations, en fait, comment elles se forment?
Alors, ces vibrations, elles se forment soit avec l'air. Il faut qu'il y ait un élément de toute façon pour que ça se diffuse, aussi bien dans l'eau que dans l'air. C'est pour ça que d'ailleurs dans l'espace, vous pouvez toujours essayer de crier, on ne vous entendra pas spécialement.
Parce qu'il n'y a pas d'air.
Parce qu'il n'y a pas d'air, puis surtout il n'y a pas d'atmosphère générée. Donc il faut quand même qu'il y ait des molécules en fait, ou des atomes qui s'entrechoquent et qui permettent de disperser le son. Si on veut être largement, on va essayer de résumer le moins scientifiquement possible. Le but c'est vraiment d'avoir quelque chose qui permette d'atteindre à vos propres organes la vibration. Donc la vibration, que ça soit électromagnétique, des 0, des 1, comme on va en parler en numérique tout à l'heure, ou que ça soit quelque chose que vous pouvez capter, c'est le plus important, c'est quand même que ça réagisse avec votre cerveau. C'est le principal. Alors le son, vous avez différentes façons de le produire, hein, aussi bien en tapant sur un bout de bois qu'en vous exprimant en parlant. Voilà. Mais il faut qu'il y ait toujours une vibration qui puisse être générée, n'importe laquelle, tout élément a une résonance de toute façon.
Et donc le son se mesure selon sa fréquence et aussi selon son intensité. Alors il y a deux mesures différentes pour ces deux paramètres. C'est les hertz pour la fréquence et les décibels pour l'intensité. Alors on entend souvent ces mots, mais qu'est-ce qui signifie vraiment? Voilà.
Alors, on va faire un résumé très simple. On va essayer d'être le plus concis possible. Donc la fréquence, c'est la forme de votre longueur d'onde, qu'elle soit plus ou moins étendue ou plus ou moins rapprochée. Et les décibels, c'est la puissance à laquelle ça va être généré, c'est-à-dire la longueur et la hauteur surtout à laquelle elle va être produite. Voilà. Donc vous pouvez avoir une longueur d'onde très courte. En général, plus vous allez être avec quelque chose de très réduit, plus vous allez vous orienter sur des aigus. Et plus avoir une longueur d'onde plus étendue, plus on va être sur quelque chose comme une basse fréquence ou des basses qui vont être générées. Donc après, et puis au milieu, bah, vous avez les médiums, hein, en général, qui permettent, comme on est en train de parler actuellement, un peu plus audible en général. C'est la fréquence du spectre médian, dirons-nous.
Et en fait, donc, quand on veut mesurer un son, ça passe toujours par une représentation graphique.
Toujours, ouais. Toujours, vous avez toujours une fréquence qui est générée, mais ça peut être généré... comme j'expliquais tout à l'heure, aussi bien avec, en tapant sur un bout de bois qu'en donnant une impulsion électromagnétique. En fait, chaque élément doit vibrer. Donc, que vous ayez quelque chose comme dans l'eau, vous avez le chant d'une baleine que vous allez entendre à des kilomètres, tout simplement parce que dans l'eau, on n'a pas d'éléments qui viennent bloquer. C'est ce que moi, à l'époque, je faisais dans des sonars de sous-marins. Voilà. Et après, vous avez dans l'air où on va être plus gêné. Par exemple, les ingénieurs du son vont être gênés quand il y a trop de vent sur une scène. Généralement, le public entend les choses, les basses très loin, mais les aigus un peu moins bien.
Donc, en fait, il y a des instruments qui permettent de dessiner ces vibrations. Peut-être au début, c'était juste un fer sur un papier.
C'est ça. On en revient à ce qu'on disait, c'est les vibrations. Quand vous avez par exemple un sismographe, vous créez une vibration. Quand il y a un tremblement de terre, donc on le récupère par exemple, cette vibration-là, elle est générée, donc ça passe effectivement sur une feuille. Et vous le voyez, en réalité, ceci, c'est une fréquence générée par la terre. Donc ça peut être vraiment très large.
Et du coup, le décibel et les fréquences ne sont pas liés.
Alors les décibels et les fréquences, la fréquence, la forme de la longueur d'onde va être au final liée à cette décibel, parce que plus elle va être importante, plus vous allez entendre très fort. Après, effectivement, on pourrait dissocier si on veut les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir des fréquences très réduites, mais il faudrait à ce moment-là zoomer de plus en plus pour regarder à quelle échelle on est. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on permet d'avoir un volume. Vous avez un potard qui permet d'augmenter plus ou moins la puissance et de votre signal, et notamment, donc, du coup, quand on parle de signal, on parle de fréquence et de décibels, les deux réunis.
Donc quand on augmente le volume, on augmente les deux, la fréquence et l'intensité.
Vous augmentez l'intensité, c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe, on va pas tout résumer, mais c'est pour ça qu'il existe des amplis. Quand vous avez une enceinte avec une certaine taille ou une membrane, on va dire une forme, et bien il va falloir générer beaucoup plus de puissance pour pouvoir la faire bouger. Donc c'est le cas par exemple quand vous achetez un sub pour envoyer plus de basses, ben il faut plus d'énergie, notamment pour la faire bouger. Donc généralement les subs sont un petit peu plus puissantes que des enceintes de tête, on appelle ça. Et donc du coup il va falloir un peu plus d'énergie, de puissance pour générer plus de décibels et du coup des fréquences plus lourdes. Donc quand on dit plus lourde, c'est le principe, la fréquence basse, c'est qu'elle vibre assez lentement. Voilà. Et c'est ce qui fait que dans nos oreilles on a l'impression d'avoir quelque chose qui gronde un petit peu. Voilà.
Donc on parle aussi de son pur pour la fréquence de 440 Hz, ce qui correspond à la note La.
C'est ça.
Et on peut l'écouter d'ailleurs, juste pour...
voilà. Quel beau La.
C'est joué par un violon. Ouais, pourquoi on prend cette référence-là des 440 Hz?
Alors c'est la fréquence médiane en fait dans le spectre des fréquences, tout simplement. Et c'est une fréquence aussi physiquement parlant pour l'être humain qui est la... plus réceptive au niveau du cochlet, donc on a un petit organe dans l'oreille avec des cils qui nous permettent de récupérer ces fréquences et ces longueurs, donc ces vibrations globalement, et qui nous permettent justement de pouvoir entendre tout simplement, de restituer ce son.
Parce qu'elles se mettent à vibrer elles aussi.
Alors ça se met à vibrer en fait, c'est les petits cils qui sont dans l'oreille qui vibrent. Alors c'est pour ça qu'on fait souvent, on explique aux artistes, aux personnes qui sont dans des concerts ou autres, de faire attention à ses oreilles, parce que quand ces cils y tombent, on ne peut pas les récupérer. Et ça crée souvent des acouphènes, des choses comme ça, donc on essaie de faire le plus attention possible. Alors ça peut arriver sous plein de formes différentes, hein. Ça peut être une exposition trop intensive, un son que vous n'avez pas été habitué à écouter, qui d'un coup a été trop violent, voilà, toutes ces petites choses-là, donc pensez à vous protéger.
Oui. Même en travaillant à la radio, je pense.
Même en travaillant à la radio, en travaillant n'importe où. Mais ça peut être un artisan avec son marteau-piqueur, comme ça peut être quelqu'un qui va écouter de la musique ou un artiste.
Et voilà. Donc le 440 Hz, c'est la fréquence perçue par un cil, c'est ça, dans l'oreille.
En fait, vous en avez 3500
cils, ce qu'on a regardé tout à l'heure.
Voilà, vous avez une résonance différente à chaque fois. Alors quand on dit résonance, c'est la restitution générale au niveau de votre oreille. Voilà.
Donc, Là, on est à la radio, on parle dans des micros. Mmh. Qu'est-ce qui se passe pour le son à ce moment-là ? C'est capté par la membrane du micro. Et ensuite, comment il se transmet ?
Alors, on va essayer d'être faire le plus concis.
Oui, c'est un parcours qui n'est pas simple.
C'est pour, voilà. On va résumer en fait. Un micro ou une enceinte, ben, la diffusion, ça, vous allez envoyer du son. Donc ça va faire bouger un petit aimant qui va faire bouger de l'air. Et c'est cet air-là en fait qui va vous créer du son. Et ben, c'est l'inverse pour un micro. C'est que le micro, vous allez souffler dessus ou parler dedans. Vous allez faire bouger la membrane qui va faire bouger un aimant qui va créer un petit champ magnétique qui va repartir par le petit câble qui va aller jusqu'à la console et qui va donner un signal. Alors là, je vais sûrement me fâcher avec certaines personnes, qui va créer un signal électrique. Et donc, on ne parle plus vraiment en réalité d'analogique et de numérique qu'on entend souvent depuis des années, parce qu'au final, le courant, ça reste des ouvertures de portes, des fermetures de portes. Donc, ça reste si ça passe ou si ça ne passe pas. Donc, si on voulait résumer en réalité, ça reste des 0 et des 1. En parlant en pur en électronique, ça reste quelque chose d'assez simple.
C'est électrique.
C'est électrique. Dans tous les cas, quand on a un instrument, alors effectivement, si vous prenez votre instrument, votre guitare, et que vous jouez simplement sans micro, là, on est sur un pur son, on va dire, analogique. Ça va créer directement cette restitution dans l'air. Si après, vous prenez un micro et que vous l'enregistrez, au final, vous n'avez plus tellement un son analogique. En réalité, c'est la vérité. Voilà. Ça reste quand même quelque chose qui va vous donner un signal électrique. Voilà. Et ça, on le récupère. Voilà.
Et ensuite, ouais, il est récupéré, il est renvoyé vers des enceintes pour...
Ah bah voilà, en général, il est récupéré, alors il passe par une table de mixage, on en a une belle d'ailleurs à côté de nous.
Voilà.
Avec un technicien...
Encore plus beau.
Voilà. Il nous charme. Et donc du coup, on essaye, voilà, on récupère ce signal et après on va pouvoir le retravailler. Mais au final, le son reste, ce que vous allez récupérer de votre son restera quand même quelque chose d'électrique. Voilà, faut bien y penser, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de son. Sauf votre voix ou un instrument sans diffusion. En gros, les micros et les enceintes, elles servent tout simplement, pour résumer, à augmenter le signal. C'est principalement ça, en réalité.
Pour mieux entendre.
Voilà, pour mieux nous entendre. Donc, quand on parle d'augmentation de signal, c'est pour mieux nous entendre, pour mieux diffuser. Voilà. Comme une radio qui diffuse, voilà.
C'est ça.
Je me disais, tout à l'heure, on a entendu un « là », et je m'interrogeais sur ce qu'on appelle le bruit blanc.
Alors,
qu'est-ce que c'est ça ?
Les bruits blancs, vous appelez ça aussi bruit rose.
Alors, oui, ça bruit dépend, rose.
On a différentes dénominations. Voilà, c'est en gros, en fait, c'est tout le spectre du son qu'on va faire vibrer. On a des micros généralement pour de la scène ou c'est généralement pour des très grosses scènes qu'on utilise ça maintenant, ou dans des milieux un peu spécifiques, l'aéronautique, ce genre de choses, où on va capter tous les sons ambiants et puis on va essayer de les filtrer pour éviter que y ait des longueurs d'onde, en fait, des filtres. On va résumer ça un peu comme ça, que vous avez des longueurs d'onde qui rentrent en phase. C'est le principe aussi des ingé-sons où on évite d'avoir un son qui va se dénaturer, tout simplement. Donc c'est surtout pour se protéger aussi, et puis pour éviter que le système y capte tout et n'importe quoi.
Et donc le bruit blanc, c'est des bruits ambiants ?
C'est des bruits ambiants, oui, c'est un peu un melting pot de tout ce qu'il y a.
Toutes les fréquences.
Toutes les gammes de fréquences qu'on fait à peu près vibrer à une certaine vitesse pour que les gens on puisse harmoniser au final tout un système son. Après, rien n'est perfectible, un maximum. On essaie de s'en rapprocher, mais on ne peut jamais. Vous ne pouvez jamais être parfait. Ça n'existe pas. Les instruments, par exemple, si vous avez quelqu'un qui va prendre un micro, et je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque avec le pot de yaourt à l'école où on parlait dedans. Si je vous fais vibrer la ficelle, vous n'allez pas entendre le même son, parce que vous allez créer la résonance dans votre fil. Donc le bruit rose, lui, il va permettre de limiter un petit peu toutes ces mauvaises choses gênantes à l'oreille auditive.
Et pour parler de l'époque que les moins de 20 ans n'ont pas pu connaître, il y a le bruit blanc, c'est celui qu'on entendait aussi à la télé quand il n'y avait plus de programme.
Voilà, c'était un peu le... Alors, c'est pas tout à fait, parce que les fréquences étaient encore un petit peu plus réduites pour la télé.
Ouais.
Parce qu'ils avaient besoin pour la télé de condenser un maximum. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous aviez des fonds d'écran noirs et blancs, avec les petits carrés là qui s'affichaient.
La neige.
La fameuse neige que vous avez. Et si vous réfléchissez bien, la neige, si on remonte vraiment en arrière, si vous réfléchissez bien, c'est des noirs et des blancs. Donc c'est du 0 et du 1, c'est des ouvertures de canaux et des fermetures de canaux.
Ok. Voilà.
C'est des champs magnétiques au final, ça reste du champ, ça reste de la diffusion. Voilà. Après, on va en parler forcément du DAB et de la FM, mais
oui, bien sûr.
On va s'en rendre compte.
D'ailleurs, pour conclure cette première partie, ce qui est étonnant aussi et ce qu'il faut garder en tête, je pense, c'est que tout ça, c'est calibré sur l'oreille humaine, mais oui. Il y a tout un tas de sons qui nous entourent qu'on ne peut pas entendre.
Que les chauves-souris, les chiens ou d'autres animaux peuvent entendre, effectivement, que nous, on a un spectre quand même qui est déjà, par mère nature, déjà assez développé. Qui, je pense, est suffisant. Mais après, effectivement, vous avez les animaux, vous avez des infrasons, ça reste quelque chose où, pour nous, c'est inaudible, parce qu'on n'a pas la capacité physique de le réceptionner. Mais oui, effectivement, ça, c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais qui peuvent gêner la nature.
Voilà. Et surtout, on peut mesurer ces sons-là.
On peut les mesurer, oui, effectivement, vous avez des micros, capter les sons de chauve-souris, je prends l'exemple, ou capter des sons de baleines dans la mer, il y a plein d'appareils différents. Ça reste, en fait, tant que vous avez une vibration, on en revient à cet effet de vibration, donc vous avez des atomes et autres qui viennent frotter et qui viennent se déplacer, et ben ça crée cette dispersion. Oui. Voilà.
C'est pour ça que le silence n'existe pas, finalement.
Alors, le seul silence, le silence n'existe pas.
Il y aura toujours des atomes qui
vibrent. Il y aura toujours quelque chose qui bougera. On ne va pas rentrer dans toutes les théories. Oui. Mais oui, effectivement, vous aurez toujours quelque chose qui vibre. Le silence dans l'espace, en réalité, ça n'existe pas. On entendra toujours quelque chose, même très loin.
Et peut-être qu'on nous entende dans l'espace, d'ailleurs.
On doit sûrement nous entendre, oui, effectivement. Ouais. Jusqu'où, on ne sait pas encore, mais... On va sûrement nous entendre.
Bonjour aux auditeurs de l'espace. Et pour avant de continuer, justement, comme tu disais, parler de radiodiffusion, on écoute une musique.
Thank you.
De retour en direct sur Radio Larzac pour une émission spéciale depuis la maison de ma région à Millau. On vient d'entendre
Procolarum, grand hôtel de 1974. C'était qu'un extrait en plus.
Voilà, donc c'était extrait de la playlist spéciale 20 ans qu'on avait fait à l'occasion de nos 20 ans. Et c'est encore une occasion pour fêter nos 20 ans aujourd'hui, puisque c'est le vernissage de l'exposition Les 20 ans de Radio Larzac, comme je disais, à la maison de ma région à Millau. Et je suis toujours en compagnie de Simon.
Toujours là.
Voilà, et de Alex qui est aussi toujours là.
Oui.
Personne abandonné en chemin.
Non. Non, on reste fidèle. Alors, on a parlé de son, on a parlé de micro aussi, et justement cette deuxième partie, je voulais plus expliquer à nos auditeurs et auditrices et au public qui est déjà là, un petit public qui nous écoute, parler justement de la radiodiffusion. Donc là, on parle devant des micros, et des gens nous écoutent de l'autre côté du poste de radio. Donc, comme tu disais tout à l'heure, les micros qui reçoivent nos voix transforment, enfin le son en fait se transforme en signal électrique.
C'est ça.
Et ensuite, il passe à la console. Et ensuite encore, quel est le voyage du son
voyage
pour arriver jusqu'à la radio?
Le son, il voyage.
Il arrive à un émetteur.
Ouais, c'est ça. Alors l'émetteur, lui, il va transformer ce signal pour pouvoir le diffuser sur un... Alors comme vous pouvez constater, les radios ont des fréquences. Et donc, il va transformer ce signal, le condenser, pour pouvoir le transmettre sur une fréquence. Voilà, c'est ce qui permet justement d'avoir une écoute, du moins pour la FM.
Donc, un émetteur, qu'est-ce que c'est exactement?
L'émetteur, c'est celui qui va vous lancer la commande, tout simplement. C'est ce qui va diffuser à plusieurs récepteurs, parce qu'on va y venir au récepteur, du coup.
Voilà. Ouais, un émetteur, ensuite qui... Enfin, après l'émetteur, il y a un récepteur.
Voilà, vous avez le récepteur derrière. Le récepteur, lui, va retransformer ce signal, de nouveau, en courant électrique. En fait, si on essaie de vulgariser au maximum, mais c'est assez simple, en final, c'est comme si vous envoyez du courant, qu'entre-temps, votre fil était coupé, du coup, vous n'avez plus de courant qui passe. Donc, pour faire en sorte que quelque chose reparte de l'autre côté et que ce vide soit complet, on a cet émetteur-là qui va créer un champ électromagnétique. On va résumer ça comme ça. Donc, il va passer dans l'air. Et de l'autre côté, le récepteur va le récupérer. Donc, en fait, on va envoyer un petit peu, si on veut, des ouvertures, comme j'expliquais tout à l'heure, ouverture-fermeture, des ondes, des longueurs d'ondes. Et donc, du coup, on doit les recalculer de l'autre côté. Et donc, du coup, on recrée un champ électrique pour pouvoir rediffuser le son.
Voilà. Ouais, c'est un peu comme s'il changeait d'état.
Il
passe de fréquence à courant électrique, repasse par fréquence, repasse courant
ça.
Électrique et repasse
ça,
fréquence
ça.
Jusqu'à notre oreille.
Jusqu'à notre oreille, qui, au final, notre oreille récupère d'une fréquence.
Tout à fait.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, il y a un émetteur ici à l'expo, juste derrière nous. Donc, si vous venez visiter l'expo, vous pouvez le voir. Est-ce que Nico, tu veux te dire qu'est-ce qu'on voit dans cet émetteur?
Bon, pas grand-chose. Il y a une alimentation électrique. Après, on envoie un signal audio dedans, ou un signal multiplexé, c'est-à-dire qu'il y a un signal audio par-dessus lequel on envoie un codage stéréo, voire un codage RDS. Mais on peut simplement envoyer de l'audio. Et après, il y a une partie de modulation à l'intérieur de l'émetteur. C'est là qu'on fait, on fait les réglages en façade sur la fréquence sur laquelle on doit émettre. Donc c'est le CSA qui nous donne la fréquence. Si on prend Millau, c'est le 87.8 par exemple. Donc on règle l'émetteur sur la fréquence 87.8. Et après, on règle la puissance de modulation. Donc ça, c'est pareil, c'est le CSA qui nous attribue une fréquence et la puissance à laquelle on doit émettre sur cette puissance, sur cette fréquence. Et du coup, sur Millau, c'est 300 watts, par exemple. Donc on règle la fréquence, 87.8, on règle la puissance, 300 watts. Et après, le signal sort par l'émetteur, par un câble, toujours, et est envoyé à une antenne de diffusion. Il y a plusieurs formes d'antennes. Nous, c'est des dipôles, donc ça diffuse en circulaire autour de l'antenne. Et j'ai fait un petit schéma qui est un peu... rapide de toute la chaîne de diffusion de Radio Larzac. Donc là, on voit le son du signal du micro, tout ce qui rentre dans la table de mixage au studio, puis après les sons, une fois qu'ils sortent de la table ou de la console de mixage, où est-ce qu'ils vont? Il y a plusieurs sorties, vers des casques, vers des boîtiers qui font le stream. Le stream, c'est ce qui permet de nous écouter depuis le site internet. On a aussi une pige box, un mouchard d'antenne. Ça, c'est le CSA qui nous oblige à avoir des enregistrements de plus d'un mois de tout ce qui passe à l'antenne. Mmh. Si jamais on a des problèmes, il faut qu'on puisse leur fournir les enregistrements, tel jour, telle date, à telle heure. Et puis après, le gros de la chaîne, c'est envoyer le signal depuis nos studios qui sont à Millau jusque en dessus du col du Renard, où est la principale fréquence, en dessus de Millau, le 87.8. Donc là, ça passe par des boîtiers qui encodent le signal, c'est envoyé dans un pont Wi-Fi avec une autre antenne en haut.
Ouais, c'est ça, en fait. Là,
il y a toute une chaîne.
C'est ça, le studio qui est à Millau, sur le toit, il y a, il me semble, le début d'un pont Wi-Fi.
Ouais, il y a le départ du signal, après ça passe dans les airs, en dessous de Millau, et c'est récupéré là-haut au col du Renard, sur le mât. On a une antenne qui récupère le signal du pont, ça arrive dans un boîtier qui décode ce signal, qui l'envoie dans l'émetteur, et l'émetteur renvoie le signal qui est devenu une fréquence de modulation dans l'antenne de diffusion.
Qui est devenu donc un signal électromagnétique.
Non. Oui, il était déjà.
Il était déjà
depuis longtemps.
Il était déjà depuis longtemps.
Et alors, le 87.8, la fréquence, si j'ai bien compris, c'est un peu le canal par lequel le signal, quoi, la fréquence va voyager. Mais le 300 watts, c'est, ça définit jusqu'où elle va aller, c'est ça ?
En fait, c'est le CSA, donc l'ARCOM maintenant, puisque le CSA est devenu l'ARCOM avec la fusion avec Hadopi. L'ARCOM, quand elle autorise une fréquence à une radio, eux, ils ont des logiciels avec des cartes. Et en fait, par rapport au site où on veut s'installer, eux, ils voient l'altitude à laquelle on est. Après, par rapport au mât, il y a aussi une altitude d'antenne qu'eux nous donnent, parce qu'ils savent qu'à cette altitude, avec telle fréquence et telle puissance, ça leur fait une zone de couverture dans leur logiciel. Voilà. Et il peut très bien y avoir une autre radio en Lozère qui a la même fréquence que nous, 87.8. Donc si on monte trop sur le mât ou qui nous donne trop de puissance, à un moment, les deux fréquences du 87.8, elles vont se mélanger. Et ce n'est pas le but qu'il y ait des auditeurs à un endroit qui ne puissent pas capter les radios parce qu'il y en a deux qui se mélangent. Donc ça, c'est eux qui ont les cartes en main. Et du coup, ils déterminent les contraintes techniques qui sont la puissance, la hauteur d'antenne sur le mât et la fréquence.
Oui, c'est les trois paramètres. Ouais. D'ailleurs, il y a une carte de la couverture de Radio Larzac aussi à l'expo.
Et aussi, donc, le chemin de diffusion que tu as fait, il est aussi exposé. Voilà, si vous voulez aller plus loin ou visualiser, parce que vrai que là, on parle, mais des fois, c'est bien aussi d'avoir des images. Et ce qui est fascinant pour moi, c'est que le son, du coup, voyage dans l'air. Et même la radio, finalement, le signal radio voyage toujours dans l'éther.
Ah bah, tout voyage, hein, de toute façon, que ça soit électromagnétique ou autre. Vous aurez toujours quelque chose qui se déplace, oui, effectivement.
Mais ça va un peu se perdre avec le fameux DAB+.
DAB+. Voilà.
Donc le Digital Audio Broadcasting, c'est quoi ça?
Alors le DAB, en fait, c'est on va essayer de résumer, c'est surtout une bande qui est un peu plus large, notamment.
Une bande, c'est-à-dire.
Une bande.
Une bande organisée.
Mais je sens que Nico va réagir tout de suite.
Non, mais c'était juste pour faire le parallèle. Au début, la télévision, on la recevait, on appelait ça analogique, et puis il a fallu passer à la réception numérique de la télévision. Et ben, ce qui nous arrive en radio, c'est ça, c'est-à-dire que pour le moment, on est en fréquence de modulation. Et on est autonome sur nos fréquences. Nous, Radio Larzac, on a trois fréquences. Et les émetteurs nous appartiennent. On loue les sites d'émission. Parfois, les mâts et les antennes sont à nous. Et on est autonome là-dessus. En radio numérique, on n'a plus la main là-dessus. Parce qu'on doit passer par un même prestataire, pour le moment, qui héberge notre signal dans ce qu'on appelle un émetteur multiplex. Donc, c'est-à-dire que dans une fréquence en numérique, à l'intérieur, il y a un bouquet de chaînes radio. Donc, il peut y avoir 8 à 16 radios sur une fréquence.
C'est ça, exactement ça.
Mais donc, ça veut dire que l'émetteur, il ne va plus être le même, en fait.
Alors, on va...
Il n'y aura plus le même signal.
Tu veux résumer, Nico, ou je résume ?
Vas-y, je pense que tu es plus calé là-dessus.
On va faire un résumé très simple. À l'époque de la FM, qui est toujours d'ailleurs d'actualité encore, vous avez une antenne qui va envoyer une longueur d'onde. Donc, du coup, on ne peut pas la définir très proprement, on ne peut pas la définir comme des 0 et des 1 purs. Vraiment, je parle de pureté, c'est-à-dire vraiment un signal pur. Le numérique, on est sur des signaux d'ouverture, de fermeture, comme je parlais pour l'électricité, donc des 0 et des 1. Et l'avantage qu'on a avec ça, c'est qu'on est beaucoup plus facilement définissable que ce que tu pourras avoir avec une antenne qui va envoyer une longueur d'onde. Une longueur d'onde, si je mets quelque chose devant, elle va être limitée. On va couper. Le même principe que si je m'avance ou je m'éloigne du micro.
Et c'est pour ça aussi que les antennes sont à hauteur, c'est ça ?
Les antennes sont à hauteur, surtout parce qu'il y a plein d'autres appareils électromagnétiques en dessous qui gênent. c'est le principe. Plus l'antenne, comme vous avez par exemple au Mont Aigoual, il y a une très grosse antenne là-bas, plus vous allez être haut, plus vous allez avoir une diffusion qui va être aussi plus facile, parce qu'il y a moins de gènes, il y a moins d'appareils, il y a moins de choses. Prenez un exemple tout bête, moi je vais résumer simplement en tant qu'ingé son. Il y a beaucoup de micros maintenant qui sont sur scène sans fil, avec des fréquences. Donc on a des antennes qui permettent de récupérer le signal de ces micros. À l'heure actuelle, aujourd'hui, on a beaucoup de soucis avec toutes les personnes qui se connectent dans les concerts pour prendre des photos, à se connecter sur les Instagram, les TikTok et autres joyeuseries de réseaux sociaux. Donc ça gêne ces fréquences et du coup, on se retrouve avec beaucoup de déconnexions. Donc à l'heure actuelle, ça va être encore plus compliqué parce qu'on a des anciens micros qui ont été faits par les constructeurs depuis des années avec certaines bandes de fréquences qui aujourd'hui sont ces bandes de fréquences réservées à d'autres domaines ou élargi ou déplacé. Et donc du coup, on se retrouve avec des interférences de plus en plus. Et la petite anecdote, c'est qu'aujourd'hui, on revient un petit peu plus sur scène avec du bon vieux fil. Voilà, le fameux XLR pour les musiciens qui nous écoutent.
Et donc pour revenir au DAB+, ce ne sera plus le même système avec qu'on a détaillé tout à l'heure. Ou ça restera le même avec la différence que c'est numérique. Enfin, je ne saurais vraiment pas le résumer.
Jenny, quoi, tu veux rajouter à...
Bah, tout ce qui est au studio, ça reste la même chose. C'est juste que le départ, là, nous, on envoie un signal analogique, normalement, mais comme il passe par un pont Wi-Fi, il est encodé, donc en fait, il est déjà numérisé.
Voilà.
Et il arrive sur le site d'émission, là-haut, Col du Renard. Le signal est numérique et reconverti en analogique pour attaquer l'émetteur. Là, en fait, dans une radio numérique, il faudra que nous, on soit en mesure d'acheminer un signal déjà numérique jusqu'à l'émetteur, qui normalement sera à une boîte privée, auquel on devra payer un loyer pour être diffusé en radio numérique sur Millau, par exemple. Donc nous, en tant que diffuseurs, il faut qu'on soit en capacité de leur acheminer sur le site d'émission un signal numérique, comprenant le son. Plus, dans la radio numérique, il y a aussi une histoire de données associées, parce qu'il y a un petit écran. Attention, on ne fait plus de la radio. Et du coup, on peut avoir des données associées à l'émission. Je pense à des grandes radios les émissions sont déjà filmées. Et bien là, on peut imaginer qu'en plus de l'audio, on va avoir aussi l'image. Bon, moi, ce n'est pas pour ça que je fais de la radio, mais on peut tout imaginer dans les données associées. Par exemple, il y a un morceau de musique qui passe, il peut y avoir la pochette de l'album ou les dates de concert de cet artiste dans la région et tout ça. Et du coup, ça demande aussi un temps énorme pour le diffuseur de fournir des données associées. On peut se contenter de mettre le logo de la radio et la seule donnée associée, c'est ça, et puis voilà quoi.
Et puis c'est surtout beaucoup plus net. C'est-à-dire qu'on a moins de bruit de fond aussi avec le DAB+, on a beaucoup de choses qui vont être plus facilement assimilables pour beaucoup d'appareils. Et puis il y a aussi quelque chose qui joue, qu'on n'en parle pas trop, tu parlais de puissance tout à l'heure, il y a besoin de beaucoup moins d'énergie aussi.
Pour le DAB+.
Voilà. Il y a aussi beaucoup moins d'énergie, on a besoin de quelque chose avec, on a besoin d'une moins grosse antenne, d'une moins grosse parabole. C'est plus facile d'envoyer des 0 et des 1 en ouverture et en fermeture, que je parle simplement pour que tout le monde comprenne, que d'envoyer une longueur d'onde avec, par exemple quand vous avez une fréquence, dans ces...
87.8,
87.8,
92.5 et 98.6. Voilà.
Dans ces fréquences-là, il faut envoyer tout un paquet d'autres fréquences qui arrivent à votre récepteur, à votre radio. Avec le DAB+, on va être un peu plus condensé. Et donc du coup, ça permet juste d'envoyer, comme à l'époque, je prendrai l'exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? À l'époque, j'en ai un super d'exemple. Quand vous prenez un CD audio et puis que vous le mettez en MP3, par exemple, vous réduisez la taille de votre fichier, donc vous condensez les données, donc ça prend moins de place. Donc du coup, si on parle de production et autres, ça vous permet par exemple de mettre plus de musique sur un CD. Voilà. Et c'est le même principe avec le DAB+, on permet d'envoyer un plus grand paquet de données, plus condensé, un peu plus réduit, sans forcément perdre en qualité non plus, parce que la qualité joue. Et ça permet surtout d'envoyer des plus gros paquets de données à une plus large bande, à beaucoup plus de personnes.
Voilà. Ceci dit, il y a aussi des données associées qui font partie de ce paquet de données.
Dans ce paquet de données, voilà. En fait, c'est vraiment, on compresse, on va dire un petit peu ça comme ça, pour envoyer... C'est comme si vous aviez une autoroute... On va dire à peu près la FM, par exemple, c'est une autoroute avec plusieurs voies qui vont un peu partout. Et puis là, le DAB+, on va partir sur une plus grande ligne droite avec plusieurs voies, voilà, par exemple.
Mais par contre, il y a aussi des désavantages au DAB+.
Moi, ce qui me questionne, par exemple, nous, on, D'une certaine manière, on a une délégation de service public en faisant la radio qu'on fait, et les émetteurs et les fréquences qu'on demande et là où on s'implante, c'est notre propre choix, en fait. Mmh. Et en fait, Millau, c'est un bassin de population, il y a du monde et tout ça, donc quand la radio numérique va arriver, je ne doute pas qu'il y ait un multiplex qui s'installe à Millau et qu'on puisse être diffusé en radio numérique à Millau. Mais par exemple, on a une fréquence qui est dans le sud de l'Arzac, à la Blaquerie, qui est un tout petit village où on arrose le sud du plateau, le Keilar, la Couverterade, les Infrus, des tout petits villages. Est-ce que quelqu'un va implanter un émetteur multiplex pour arroser cette zone-là? J'en doute. Mmh. Et la dernière installée en 2020, c'est la fréquence du 92.5 en dessus de Nantes, dans la vallée de la Dourbie. Et là, quand on s'est installé, nous, à côté, il y a un autre mât, et là-dessus, il n'y a que 3 radios du service public. Donc je doute là aussi que juste pour 3 radios du service public et une radio associative, est-ce qu'ils vont implanter un multiplex ici? Est-ce que ça sera un multiplex qui sera plus haut, légal et auquel nous on pourra s'installer? Et il y a aussi, ce qui me questionne, c'est des histoires de territoire et de découpage. C'est-à-dire que nous, on s'appelle Radio Larzac, on diffuse dans le sud d'Aveyron, on ne va pas émettre à Saint-Afrique, on ne veut pas installer d'émetteurs là-bas parce qu'il y a Radio Saint-Af et que voilà, ils sont là. On ne va pas aller dans le Nord-Aveyron non plus parce qu'il y a des radios associatives dans le Nord-Aveyron et on serait pas... Notre territoire, il est ici, il n'est pas là-haut. Quoi. Mmh. Si c'est pour faire un truc mal là-haut, autant ne pas le faire. Et le découpage des allotissements en radio numérique est tel que là, tout de suite, si on devrait postuler sur de la radio numérique, là, en 2023, il faudrait qu'on postule sur du Nîmes étendu. Mmh. Quel est l'intérêt pour nous, Radio Larzac, d'être diffusé à Nîmes? Pour le moment, je ne vois pas trop l'intérêt.
Pour l'instant, oui, effectivement, c'est...
Voilà.
Mais c'est pour ça que ça pose beaucoup de questions à plein de radios associatives qui n'auront pas les moyens ou l'envie ou les ressources pour faire ce passage.
Sans compter l'allocation des mâts, sans compter que c'est du privé derrière des sociétés qui gèrent. Enfin, on peut
oui, il y a le coût financier aussi. C'est-à-dire que là, voilà, on est autonome sur nos 3 sites de diffusion, on paye l'électricité, la consommation. Et là, on va devoir être tributaire de quelqu'un pour être payé un loyer, pour être diffusé, en fait.
C'est ça.
Mais ce loyer peut très bien augmenter d'une année à l'autre, mais après, on n'a pas le choix. Pour l'instant,
personne n'a encore vraiment le visuel là-dessus.
Bah, c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment des autorisations sur des secteurs urbains et que pour les radios rurales, ça pose vraiment question. Et comme ils ont annoncé la fin de la FM en 2030, c'est presque demain. Mmh. Et que pour l'instant, ça n'en est que à des implantations urbaines. Donc il y a une question à ce niveau-là, c'est sûr. Mmh. Quant au fait de devoir passer par une boîte privée, je tiens à spécifier qu'à Marseille, des radios se sont mises ensemble pour créer eux-mêmes leur multiplex et leur diffusion et leur émission en DAB+, et qu'ils ont mutualisé tout ça et que ça marche très bien et que ça coûte pas très cher.
Oui, donc effectivement, c'est pour ça aussi que on pense, et on l'a déjà évoqué à d'autres occasions, que l'avenir des radios associatives, c'est aussi de faire ensemble de plus en plus. Oui.
Mais il fallait, quoi, là où ils ont réussi, la raison pour laquelle ils ont réussi, c'est qu'ils ont réussi à se mettre 10 radios associatives ensemble sur le même émetteur DAB+, parce qu'après, normalement, dans les multiplex, il y avait aussi bien des radios associatives que des radios commerciales, que des radios semi-commerciales, qui n'ont pas les mêmes exigences. Par exemple, une radio commerciale, s'il y a une journée de panne, c'est des pertes énormes en termes de publicité, etc. Donc voilà, ils avaient tous à peu près les mêmes exigences et le même fonctionnement. C'est pour ça que ça a fonctionné.
Oui, merci pour l'avoir rappelé, en effet. Si vous n'avez pas autre chose à ajouter, j'aimerais peut-être donner la parole au public qui est déjà là. Si vous avez des questions, des remarques, on a un micro qu'on peut faire passer parmi vous. Oui, on voulait aussi prendre le temps de présenter l'expo. On peut peut-être commencer à faire ça, et peut-être qu'il y aura des questions après.
Oui, ils font les timides. Mais...
Alors, pour faire la transition, l'expo a une dimension sonore. On a fait des recherches d'archives pour monter cette expo. Donc, pendant toute la durée de l'exposition, jusqu'au 21 décembre, vous pourrez venir écouter des archives sonores. Il y aura des casques à disposition, donc il y aura des archives autour de Radio Larzac, avant Radio Larzac, sur la période 1973-1974. Ensuite, il y aura la naissance de Radio Larzac en tant que radio collective éphémère pour le rassemblement de 2003 sur le Larzac. Il y a aussi l'histoire de Radio Larzac, donc ça c'est une interview de Juliette Volclair, qui a fait plusieurs épisodes qui s'intitulent l'histoire des radios associatives, et donc il y a un épisode sur Radio Larzac, donc qui sera en diffusion continue dans un casque à l'expo. Ensuite, il y aura un casque qui diffusera, où vous pourrez écouter les émissions d'hier de Radio Larzac, de 2004 jusqu'à 2008. Et enfin, un casque où vous pourrez écouter des émissions collectives de Radio Larzac, parce qu'on aime cet esprit collectif et que on œuvre à créer des moments comme ça de liens et d'émissions collectives. Voilà, donc une sélection de ces émissions-là en écoute.
Oui, c'est ça. Nous, maintenant, on est installés sur un plateau où il y a des micros et des casques. Mais là, il y aura toujours des micros et des casques pendant la durée de l'exposition, mais on pourra écouter.
Oui, les casques, il y aura ça en continu.
Et d'ailleurs, ça fait le lien avec un panneau de l'exposition qui est consacré à cet aspect collectif de Radio Larzac, juste derrière toi, Alex. Voilà. Donc, ça permet de faire la transition sur l'expo. Donc, il y a une dizaine de panneaux, et chaque panneau est consacré à un aspect différent de l'histoire de Radio Larzac et de Radio Larzac aujourd'hui. Il y a trois panneaux en particulier qui sont en plus sur le présent de Radio Larzac, et la première partie, c'est plus sur l'histoire. Donc effectivement, comme tu as dit, il y a Larzac 2003, La Caravane,
la fameuse Caravane, parce que
du coup, c'était le premier studio de Radio Larzac. Je pense que Nico, tu t'en souviens très bien.
Oui, bien sûr que je m'en souviens de cette caravane. On était encore dans cet été au Résistante. Alors.
C'est ça. Donc c'est un symbole qui est encore... c'est un peu un symbole de la radio, on peut dire, qui est encore utilisé aujourd'hui et qui a été repeint plusieurs fois.
Ouais, le plusieurs pots, ouais, comme on dit.
Et ensuite, avec l'histoire de la caravane, ensuite il y a le premier studio sur le plateau du Larzac, mais c'est pas pour autant que la caravane est passée à la casse, hein. Elle est encore là. Ça s'appelle Vagabondage radiophonique.
En vrai, c'est le deuxième studio, c'est Saint-Michel du Larzac, là où on a été longtemps avant d'arriver à Millau. Mais avant, il y a eu le CUN du Larzac, mais on n'a pas beaucoup de photos de cette période, et puis ça n'a pas duré très longtemps. Donc, c'est le deuxième studio de Radio Larzac.
Ouais, c'est bien.
Là, nous en sommes au troisième. Troisième déménagement.
Et oui, et donc après, sur le fond, vous avez plusieurs grandes affiches qu'on a retrouvées dans un coin dans le studio d'aujourd'hui. Il y en a une d'ailleurs qui est signée par les musiciens et les personnes qui avaient participé à la fête de Radio Larzac de 2014, il me semble. Une grande affiche d'une assemblée générale aussi. Et puis après, de l'autre côté, on a donc le déménagement à Millau. Non, c'était 2017. Et puis ensuite, la radio collective, comme on a dit, le studio d'aujourd'hui, où d'ailleurs Alex t'a fait un mosaïque avec tous les logos des émissions
présentes, ouais, actuelles.
Et ensuite, pour finir, 20 ans après, on est retourné sur le Larzac, même si on y allait quand même pendant ces 20 ans, pour les résistantes. Et là, c'était presque 20 ans jour pour jour. C'était 20 ans presque jour pour jour. Après le rassemblement 2003.
Et presque la même chose.
Ouais, on a bouclé la boucle cette fois-ci. Ouais, une radio collective éphémère sur le plateau du Larzac pendant un rassemblement de lutte. Été 2003, été 2023, il y avait quand même beaucoup de similitudes. C'était nos vrais 20 ans, entre guillemets, quoi. On s'est retrouvés dans la poussière du cause, dans la paille, et avec plein d'autres gens à faire de la radio ensemble, collectivement, pendant 4 jours.
Avec un vent de 50 km/h jour et nuit.
Et il y a d'ailleurs encore cette poussière sur les enceintes de la radio,
Les pieds des enceintes sont poussiéreux. Il y a le panneau des résistantes qui est encore là, qui a été fait par Marion Delattre, oui, pour l'occasion.
Parce que d'ailleurs, c'était à l'occasion des résistantes, on a oublié de le dire, les rencontres des luttes locales et globales. C'était la première édition sur le Larzac cet été, et on avait été contacté par la Confédération Paysanne pour participer. Confédération Paysanne qui était aussi à l'origine, entre autres, de Larzac 2003. Et cette année, c'était aussi en collaboration avec les faucheurs et faucheuses volontaires de GM, cette organisation de rassemblement. Une organisation qui était née à Larzac 2003, et une association beaucoup plus récente qui s'appelle Terre de Lutte. Voilà, donc c'était 4 jours, 7500 personnes et 4 jours de radio, 24 heures sur 24 finalement.
Voilà, et donc tout ça, donc autant on a fait des recherches d'archives sonores, on a fait aussi beaucoup de recherches d'archives de photos, et donc tout ça est illustré par un grand nombre de photos.
Tout à fait, ça me permet aussi de remercier les personnes qui nous ont fourni ces photos, notamment Muriel qui est aussi la graphiste de Radio Larzac, qui a dessiné toute la charte graphique. Muriel Flouriot. De remercier aussi Valérie, qui a été stagiaire.
Qui nous a beaucoup aidés.
Oui, vraiment beaucoup aidés. Remercier aussi Kevin, qui était un graphiste aussi pour la radio, qui a fini sa mission de service civique avant-hier. Merci beaucoup aussi à Hugo, qui a beaucoup aidé à la construction de l'exposition, à Céline d'Aporia Culture, qui nous a apporté un regard important, un regard artistique.
Extérieur, oui.
Voilà. Et puis, Alex, tu as fait énormément de recherches d'archives sonores, donc voilà, c'est... merci à toi, c'est
ben
cool.
Ouais, ben merci à toi, Sophia, merci à Nico aussi.
Ben, Nico qui a installé toute la partie technique.
Et qui a fait des archives, des recherches de photos. Ouais.
Il en faut des techniciens.
Et puis merci à toi, Simon, du coup, pour être...
Ben, merci à vous, c'était très agréable. N'hésitez pas, en tout cas. Et puis, si un jour les gens ils veulent des renseignements, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter sur EPSI, à l'UNAS. On a une bonne équipe qui répond bien.
Et puis tu disais des cours aussi de technique.
Ouais, on donne des cours de technique, on monte un peu l'électronique, on essaie de montrer un peu aux gens aussi ce qu'on peut éviter de jeter aussi. Parce que des fois, des amplis, il n'y a pas grand-chose à changer, on peut essayer de réparer les choses. Donc on a une bonne base électronique.
Avec une équipe mixte.
Avec une équipe mixte, d'ailleurs, plus de filles que de garçons. Pas si mixte, mais ça nous va très bien et tout le monde est très, très content, on est tous satisfaits. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez toujours consulter le site, nous regarder sur Google.
On peut dire, donc EPSI...
À l'UNAS. Voilà.
À l'UNAS,
voilà. On a tout ce qui est sonorisation, électronique. On peut donner des cours pour les personnes, par exemple, des artistes qui veulent savoir un peu des placements de micro ou juste... Des fois, quand on découvre le métier aussi, savoir à quoi sert telle ou telle chose. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de demandes. Enfin, en tout cas, les filles, je remercierai Mathilde et Céline qui ne sont pas là ce soir, mais bon.
Qui nous écoutent.
Qui nous écoutent sûrement, avec qui je travaille, qui se sont engagées principalement auprès des jeunes filles qui voudraient découvrir le métier de technicienne aussi. Et donc, du coup, pouvoir s'engager là-dessus aussi pour présenter comment fonctionne le son. Et puis même des nouvelles compagnies de spectacle. C'est assez large, hein, ça peut être des groupes de musique ou des compagnies qui, des fois, ne savent pas forcément toujours comment utiliser du matériel aussi audiovisuel. Et donc là, on est un peu là pour ça aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas.
Bien, merci. Merci, Simon. Et puis, le plus grand merci va quand même à la Maison de ma région de Millau qui nous offre cet espace gratuitement jusqu'au 21 décembre. Donc voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Maguelon notamment qui m'a soumis cette idée il y a quelques mois. Et donc comme je disais, c'est ouvert jusqu'au 21 décembre, c'est gratuit. Et si vous nous écoutez, vous pouvez aussi nous rejoindre. Il y aura un petit pot d'ouverture à 18h. Et puis l'expo est visible aujourd'hui. Et puis du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Tous les jours. Et puis on a aussi des studios, 8 rue de la Capelle. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir si ça vous chante. Si ça vous chante de nous proposer des émissions aussi, ou des idées. Eh bien, merci à tous, merci à toutes, merci Nico pour la technique. Et puis, à très bientôt.
Avoir 20 ans, avoir 20 ans et ses problèmes, avoir du change. Une main pour la chance et l'autre enchaîne, avoir du chien. Quand on est jeune sans faire la manche, prendre la confiance. Tenir la barre sans faire la planche, avoir la tête dans le turfu. Des soucis plus gros que le ventre, déjà tout vu, tout entendu. Avoir des puces sur l'innocence, avoir le seum. De rester planté sur le seuil, de ne pas vivre la pura vida, prendre des pains dans la gueule. Avoir 20 ans, hier comme aujourd'hui, c'est contraignant. Entendez bien qu'on s'en balègue de savoir c'était mieux avant. Avoir pour seule contrainte de vouloir peser dans l'histoire. Une énergie à tout péter comme Usain Bolt vers la victoire. Avoir 20 ans. No. light. Avoir des bâtons dans les roues depuis les bancs d'école. Consterné de voir dans la presse qu'on nous traite comme des guignols. Avoir la soif d'apprendre sans pouvoir l'étancher. Considérer la part de l'homme avant la part du marché. Avoir des vieux qui jouent les indélogeables. Argument sur le dos des jeunes, refusent d'être putain de responsables. Avoir 20 ans sur ma mère, c'est parfois déprimant d'être comme un papillon attiré par les lumières de l'argent. Avoir ce monde où l'empathie est devenue rare, qui rime avec un civil, glorifie les imbéciles. Avoir 20 ans, n'être rien que cynique et fainéant. Vouloir tout et maintenant, sans poireauter encore 20 ans.